De la musicopolis.
J'ai commencé la musique à 7 ans, 6-7 ans. J'étais en éveil musical
D'accord.
au conservatoire. J'ai commencé, en fait, j'avais un groupe de rock, fusion, on va dire,
Ok.
où je faisais guitare et clavier.
Et passer devant le micro, jamais, ça t'a jamais traversé l'esprit.
Non, en fait, si, bien sûr.
Obligé, je dis obligé.
J'envoie à Dundeal. Du coup, il m'envoie une vidéo. Je vois, il bouge la tête. Tu vois, j'entends Quavo derrière. En fait, pendant un an, j'avais 9 secondes. 9 secondes de
Tu
Quavo.
l'as poncé le snippet.
Voilà, tu connais. Je l'ai gardé pour moi. On court après le placement.
Ouais.
Et en fait, le mec, il va te dire en session, vas-y, je veux. Je sais pas, je veux un bruit de chaise. Tu vois, bah, tu vas faire un bruit de chaise parce que tu veux placer. Tu vois. Et en fait, c'est dommage parce que du coup, la musique, elle passe au second plan. Tu veux le placement avant la musique. Que si tu as un ego, toute personne qui fait de la musique, je pense qu'elle a un minimum d'ego. Et du coup, tu vas être fier de ce que tu fais, tu vois. Et de voir des musiques où t'es pas fier, ça te rend triste, tu vois. Donc ça, c'est un premier conseil pour au début de vraiment construire une couleur.
De la musicopolis.
Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de votre podcast 100% dédié au beatmaking et au DJing dans le monde 2. C'est votre host sur Chris. Bonne année à toutes et à tous avant tout. J'espère que cette année sera meilleure que les deux dernières années et pas grand chose à souhaiter si ce n'est la santé, le plus important au vu de ces deux dernières années. On revient, on continue toujours dans cette saison 3 de votre podcast Dans le Monde 2. Un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien depuis ces trois dernières années du média et ces deux premières années du podcast. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast sur cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou les différentes plateformes de stream. À lâcher 5 étoiles également. Maintenant, vous pouvez faire aussi sur Spotify, pas que sur Apple Podcasts, ce qui nous aide énormément en termes de visibilité et référencement par rapport à tous les podcasts. Donc, foncez, lâchez 5 étoiles également en commentaire. Ça nous fait énormément plaisir. Ça nous donne beaucoup de force. Et pour débuter cette année 2022, on a l'honneur de pouvoir échanger avec un beatmaker qui a bossé avec SCH, Riles et plusieurs artistes de son label Riles Sunday, Kalash, Kalash Criminel, Les Migos, Key Glock, Franglish, Kaza ou encore Alonso pour ne citer que. Je vous parle bien évidemment de Shaz, à pas confondre avec Shaz Beats du sommet bien évidemment. Et un super échange, une super discussion qu'on a pu avoir avec Shaz. On discute de plein de sujets, son enfance, son parcours dans la musique, ses différentes influences du hip-hop au rock en passant par la soul, le blues, le jazz, également les Derbouka et toutes ses influences par rapport à son origine tunisienne. Aussi son voyage à Atlanta qui l'a forgé, ses différentes connexions, le réseau, des péripéties incroyables, notamment la composition de Working the Fool pour les Migos entre les États-Unis et la France, les décalages horaires, plein d'anecdotes en studio avec d'autres beatmakers américains, des infos croustillantes sur des albums qui arrivent sur des rappeurs français et US, mais également du branding autour du beatmaking, le R&B français, US, le business puisqu'il a une société, sa propre société de publishing, management, de production et également son EP qui arrivera en 2022. Une discussion super riche, passionnée, d'un passionné, passionnante et sans plus tarder dans le monde de Chaz. Let's go! Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast 100% dédié au beatmaking et au DJing. C'est votre host sur Chris au mic, toujours présent justement pour échanger avec nos différents guests autour de cette discipline qui est le beatmaking ainsi que le DJing. Avant de débuter l'épisode, comme d'habitude, on remercie le guest précédent. En l'occurrence, là, c'était pour Beatmaking DJing, c'était Mel Woods, gros shout out à elle. Et pour le 4 Fantastique, un gros shout out à GG Sounds. Aujourd'hui, avant de débuter, une petite news Beatmaking DJing, comme d'habitude, hein, vous connaissez. Pendant le mois de décembre, on a eu la sortie d'un truc très intéressant de la part d'un beatmaker suisse du nom de Oz ou Ozzy en fonction de votre prononciation. On l'entend sur certains morceaux de Drake, Ozzy Got The Bounce, producteur suisse qui fait partie de Ayla Management et qui a sorti son kit, un nouveau drum kit ce mois de décembre. Pour celles et ceux qui ne vous identifient pas, le beatmaker, il est présent sur You With Me de Drake, Sicko Mode, DJ Khaled How Many Time avec Chris Brown, plusieurs morceaux de Khalid, Jeezy et le dernier album aussi de Trippie Redd et aussi le Rick Ross Drake, si je ne dis pas de bêtises. Gold Roses, très très bon morceau d'ailleurs. Donc voilà, pour les beatmakers qui nous écoutent ou pas, si vous voulez checker son drum kit, foncez, si vous voulez avoir un petit peu des petites portions de ce que Ozzy peut réaliser, donc n'hésitez pas.
D'ailleurs, à ce propos, on avait fait un article sur notre site autour de Ayla Management. Donc, si vous voulez les checker, que ce soit Ozzy et d'autres prods qu'il a pu faire, j'en ai oublié, mais notre guest l'a mentionné, Life is Good et plein d'autres morceaux. Et les autres beatmakers qui font partie de Ayla Management, Boy Wanda, Nils,
Cardo,
Ga, Wangs, bref, allez checker l'article, on va le mettre en bio de cet épisode. Donc voilà la news beatmaking de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit un beatmaker multi-platinum qui bosse entre la France, les Caraïbes et les US. Vous l'avez peut-être écouté sur le dernier live de la team de Mogopoly qu'on salue au sujet du regretté Young Dolph. On peut retrouver ses prods sur des morceaux de Léon, SCH, Alonso, Papi, Captain Roshi, le BOX, Box, Kaza, Kalash et Kalash Criminel, Franglish, K-Glock. Et après avoir été mécontent sur la première version, bel et bien présent sur Culture 3 de Migos, Chaz est présent avec nous. Comment ça va, Chaz?
Ça va, l'équipe tranquille.
Ouais. Super. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous.
On termine l'année 2021, on a pas mal de rétrospectives, musique, des plateformes de streaming, de différents médias, différentes personnalités qui font leur bilan. Toi, de ton côté, quel bilan tu fais de cette année 2021? Et si je dis pas de bêtises, à 650 prods en 2021.
C'est ça. Ouais, beaucoup de travail hein, cette année, franchement, je suis content personnellement parce que ça a passé un cap et placer Migos, pour moi, c'était un rêve de placer en fait un gros quinri. Voilà, ça a toujours été un rêve et là, cette année, j'ai pu le réaliser. Et voilà, donc déjà rien que pour ça, je suis super content. Je suis aussi content de SCH d'être sur l'album Julius 2 parce que je crois que c'est l'album le plus vendu cette année, un des albums les plus écoutés en tout cas de l'année. Donc placé sur des gros projets en France et aux États-Unis, c'était mes objectifs et voilà, objectif atteint. Donc c'est cool, belle année, et puis on espère que ça ira mieux encore en 2022.
Ok. Et dans les 650 prod, il y en a à peu près combien qui ont été envoyés, d'autres qui sont gardés en stock? Tu peux jauger un peu ou pas du tout?
Sur 650 prod, franchement, c'est compliqué à dire. Après, moi, j'envoie toutes mes prod, je les fais écouter ou je les envoie. Dedans, il y a des, en fait, dans les 650, c'est vraiment même, il y a des morceaux, il y a peut-être je sais pas, une centaine de tracks qui ont été faites en studio avec des artistes qui sont pas sortis.
D'accord.
Et il y en a et parmi ces 650, je compte aussi les sons sortis. D'accord. Tu vois, donc c'était plus, en fait, j'ai regardé dans mes dossiers, j'ai compté, j'ai dit en fait en tout, voilà.
Okay.
Tu vois. C'est un chiffre assez conséquent et ça montre le travail, c'est cool.
Très bien. Pour celles et ceux qui nous écoutent, à l'heure où l'épisode sera dehors, notre article sur les prods qu'on a kiffé en 2021 sera dispo d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller checker ça et à nous partager également vos pépites de 2021. Commençons par le commencement. Tu es originaire du 9-1 si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, tu résides dans le 92. Comment était ton enfance, ton rapport à la musique à peu près à cet âge? En grandissant, dis-nous tout.
Ok, cool. Bah déjà c'est exactement ça. Moi, je suis né à Lille, dans le nord, pardon.
Ok.
Voilà, je suis né à Lille. Après, je suis arrivé tout petit dans le 91. Je suis arrivé à Brunois.
D'accord.
Et en fait, j'ai commencé la musique à 6-7 ans. J'étais en éveil musical au conservatoire.
D'accord.
Donc, j'ai commencé par le violon. C'était mon premier instrument. Et en fait, j'ai fait ensuite... Ma grande sœur faisait du piano. Donc j'ai aussi switché vite sur le piano et j'ai arrêté le violon. Voilà, donc c'était vraiment... en fait, sur le moment, on s'en rend pas compte, comme tous les enfants, solfège, on doit être assis, derrière une, on doit entendre des notes, des trucs. Mais en fait, quand t'es petit, c'est là où ça imprègne le plus. Et donc en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'était une énorme chance et que mes parents, ils m'aient mis à l'école de musique, sans pour autant qu'eux soient musiciens. Mais c'était pour eux donner une chance qu'eux n'ont pas eue à leurs enfants, de se dire on va leur donner cette chance d'aller à l'école de musique. Donc mon premier rapport, il est là. Ma sœur qui fait du piano. Après, il y a aussi des influences. Moi, je suis d'origine tunisienne, donc aussi au pays, tu vois, t'as la fête, t'as les mariages, le derbouka, beaucoup de rythmes beaucoup de rythmiques. Donc, souvent, j'avais des rythmes comme ça qui me venaient instinctivement, tu vois. Et après, mon premier rapport vraiment à l'enfance, à la musique, c'est ça. Si je peux avancer, après, j'ai commencé, en fait, j'avais un groupe de rock. Fusion, on va dire, où je faisais guitare et clavier. Et en fait, c'est là avec ça que j'ai commencé à composer mes premiers morceaux. On chantait en anglais. Et donc, c'était un groupe à la fois influencé Jimi Hendrix, Red Hot Chili Peppers.
Okay.
Euh, rock alternatif, globalement, Rage Against the Machine, toutes ces choses-là. Donc voilà, on a fait des lives, quelques projets. Ça m'a amené aussi à composer, en fait.
Ok, voilà. Ça va. T'es pas le premier guest qu'on a eu qui nous parle de d'anciens groupes de rock. On avait Ozora Miyagi aussi,
okay.
Qui avait un groupe de rock avant.
Shout-out à Ozora.
C'est cool. Et parallèlement à ça, t'écoutais quoi en grandissant niveau musique?
Grandissant, j'écoutais de tout. Pas une grande culture variété française. Ça écoutait pas trop ça chez moi, okay. Mais plutôt international. Donc des chanteurs africains, ouais. Des chanteurs la grande chanson arabe, tu vois, des Oum Kalsoum. Beaucoup de Red Hot Chili Peppers, du Eminem, 50 Cent, bon, c'est ma génération aussi. Ouais. Donc voilà, beaucoup de 50 Cent. Ça écoutait aussi pas mal de tout, franchement. De tout. Okay. Aussi bien du AC/DC, tu vois, hard rock. Du jazz, parce que j'ai fait aussi de l'école de musique jazz aussi. À un moment donné, après le classique, j'ai fait du piano jazz, donc ça m'a ouvert, tu vois, Miles Davis, enfin... Donc très éclectique, ouais, c'est très riche, éclectique. Ouais. Voilà, okay, j'ai eu cette chance-là, et voilà.
Très bien. Okay. Et ouais, tu parlais du coup de ton groupe de potes avec lequel vous faites un groupe de musique, et ça t'a donné des facilités aussi par rapport à ton apprentissage à tourner vers la composition, la prod, et passer devant le micro, jamais, ça t'a jamais traversé l'esprit?
Non, en fait, si, bien sûr.
obligé.
Bien sûr, on a tous cet égo-là, tu sais, quand t'es petit, t'as envie de tout essayer. Donc j'ai bien sûr testé, en fait, à un moment donné, de chanter, j'ai testé de faire les bacs, comme on dit, c'est-à-dire les harmonies. En fait, j'ai toujours aimé les harmonies, parce que j'ai compris ça genre à l'école, tu vois, c'est-à-dire, tu sais, une voix et une autre par-dessus.
Ouais.
Et en fait, même quand je dis une voix, ça peut être une guitare, une autre, mais tu vois, les harmonies, je trouve, en fait, ça m'a choqué, tu vois, c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est la chose là, c'est dans la musique, c'est une chose les plus belles, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a donné envie tout de suite de chanter. Mais on avait un chanteur, tu vois, qui aujourd'hui, qui fait des prods avec moi aujourd'hui aussi, okay. Qui s'appelle Mokaz. Okay. Et c'était ce chanteur-là, tu vois, lui, il était lead, et moi, des fois, je faisais les backs, tu vois.
Okay.
Mais c'était pas, j'ai jamais été frontman, comme on dit.
Okay.
Tu vois. Donc ensuite, on a rappé un peu, on a freestylé, voilà, rien de...
Vous avez tout essayé, quoi.
Rien de très concret, mais en tout cas, ouais, on est passé derrière le micro un peu.
Très bien. Et du coup, à la suite, dans cet apprentissage de la musique, il y a une formation de musique que tu fais, qui te permet du coup d'être vraiment en couteau suisse par rapport à ce que tu as fait plus tôt et là, ce que tu fais actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Tu veux dire sur l'aspect composition ou
la formation en elle-même, elle consistait à quoi?
Bah en fait la formation, enfin moi j'ai pas, en fait c'était pas une formation professionnelle, hein, c'était vraiment un hobby, tu vois, genre comme il y en a, ils vont faire du foot ou tu vois. On a la chance en France quand même qu'il y a des structures, des écoles de musique, et qui en plus, même si, enfin. Je veux dire, même si on n'a pas les moyens, etc., il y a des budgets, il y a des bourses. Même si, en vrai, tu vois le prix que ça coûte, je trouve que culturellement, on pourrait plus mettre les enfants là-dedans, parce qu'en vrai, c'est pas si cher que ça.
Okay.
T'as en fait une fois par semaine, moi c'était ça, une fois par semaine, j'avais un cours de piano.
D'accord.
Et j'avais aussi solfège. Et voilà, donc ça, c'est mon cursus. Ça m'a amené à... J'étais pas un virtuose, tu vois. J'ai jamais été un grand technicien du piano et tout, mais juste, en fait, ça m'a donné des bases. Ça m'a donné des bases de comprendre les accords, comment la musique se construit. Et ensuite, ça m'a amené à composer. Parce qu'en fait, donc, suite au classique, j'ai fait un examen à la fin du premier cycle.
D'accord.
Et c'était pas pertinent. C'était pas ça, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais un peu un flemmard. Mais j'avais deux morceaux de jazz. Et en fait, ces morceaux de jazz, je les maîtrisais parce que je kiffais de ouf le faire du jazz. Tu vois, c'était vraiment, j'ai vraiment adoré ça. Et du coup, ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, on va t'orienter en jazz. Et donc là, je suis parti du classique, je suis allé avec un prof de piano jazz. Et ça m'a amené vraiment l'impro, tu vois, l'improvisation, comprendre encore une fois les accords 7e blues, gospel. Enfin, en fait, ça m'a ouvert à la musique afro-américaine au sens large, vraiment d'être dans le jazz avec une base classique. Et c'est là où j'ai aussi vraiment appris tous les standards de jazz, de blues, soul, et c'est magnifique. C'est incroyable, la grande musique. Voilà.
Je co-signe fort. Et à cette période-là, du coup, après, tu t'approches peut-être de l'apprentissage, vraiment les prods à part entière. Est-ce qu'il y avait des beatmakers, des compos auxquels tu t'identifiais, dont les créations te parlaient?
Tout à fait. Bah déjà, ouais, au début, en fait, comme tu dis, moi, donc j'étais piano, il y avait des potes qui rappaient, ça freestylait un peu. Et donc moi, naturellement, vu que je faisais des instruments, bah, je me suis dit, tiens, je vais faire des prods. Et ce qui m'a parlé au début, en fait, moi, j'ai beaucoup écouté Rage Against the Machine. Donc c'est un groupe, ceux qui connaissent pas, fusion metal rap, et en fait ils ont fait un album reprise de classiques de hip hop, et en fait il y a Cypress Hill, il y a EPMD, Il y a, en tout cas, c'est les deux que je me rappelle. Et en fait, je suis allé ensuite écouter ses albums old school. De mon époque, j'écoutais ce qui sortait, les 50, les, tu vois, les trucs de, quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Mais en fait, ça m'a vraiment fait un choc quand j'écoutais Cypress Hill. J'ai dit, ah ouais, c'est les instrus, tu vois, la guitare latino, les beats et tout. Donc, eux, ils m'ont énormément influencé. Et après, donc, je suis tombé sur la West Coast avec Dr. Dre. Des potes qui m'ont fait écouter les Pete Rock, tu vois, les J.D. là. Donc, tout, moi, je me suis pris tout l'historique en retard, tu vois, mais j'ai fait les classes classiques hip-hop. Voilà, donc ça, c'est les premiers qui m'ont vraiment influencé. Voilà.
Très bien, très bien, très bien. Et pour les beatmakers en devenir ou même ceux qui se posent la question et qui voudraient savoir sur quel logiciel tu bosses, t'es plutôt Team FL, Logic, Ableton.
Team FL, hein, depuis, depuis 3 ans. Non, même pas. Même pas
moi, c'était quoi avant?
Avant, j'étais sur Reason. Et après Machine. D'accord. Voilà, Reason, Machine et ensuite FL là.
Et qu'est-ce qui a fait que tu as basculé de l'un à l'autre puis au dernier?
Bah en fait FL je trouve que c'est le plus rapide, c'est le plus efficace. Voilà, c'est le plus efficace et en fait Reason c'était cool mais par exemple à l'époque tu pouvais pas enregistrer de, moi je fais de la guitare puis donc je pouvais pas enregistrer de trucs externes. Donc c'était compliqué pour ça. Machine c'est cool mais pour séquencer, pour tu sais arranger les morceaux, c'est une galère.
D'accord.
Donc FL c'était le compromis qui fait que tu peux tout faire, c'est simple.
Ok.
Voilà, ensuite à l'époque j'étais pas mal avec, enfin je bossais tu sais avec Pyroman et tout, donc je voyais en session, je le voyais sur FL, ça allait. Bon allez FL, hein, pour collaborer avec tout le monde, tu sais.
Voilà. Pour que derrière il envoie des réseaux et tout, tu dis ok bon.
C'est ça, il y a un truc, tu vois.
Il y a un truc à faire.
Et puis States Metro, tous les voilà.
C'est ça.
Donc FL il y a une magie.
Ok, très bien. Par la suite, dans ton parcours, il y a aussi quelque chose qui, je pense, jusqu'à présent, stimule ta carrière. C'est un voyage aux US, et plus précisément à ATL, Atlanta. Première saison du podcast, on a reçu un de tes homologues, Frenchies, qui a pu voyager aussi au berceau de la trappe. En voyage, peu importe le motif, ça débloque le cerveau en matière d'ouverture d'esprit. Hein. Toi, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ce trip outre l'Atlantique, que ce soit sur le plan perso ou professionnel?
Ce que je retiens, c'est que déjà, c'est en fait, ça m'a fait une. C'est comme une révélation.
T'es parti à quel âge d'ailleurs?
Je suis parti en 2017, j'avais 22 ans.
Ok.
J'avais 22 ans. En fait, j'ai un pote à moi qui s'appelle Antoine, que je passe un bonjour.
Ah, shout-out Antoine.
Gros shout-out, parce que franchement, c'est cool. En fait, il a une partie de sa famille, donc il a une partie de sa famille qui est basée là-bas, qui est basée à Atlanta. Et en fait, eux, ils m'ont hébergé quoi, pendant 3 semaines, je crois. Okay. Ouais, je suis parti 3 semaines 2017. Et en fait, pourquoi? C'est parce
bon
que
plug.
J'étais. Franchement, c'était de ouf un plug parce que en vrai, peut-être que je serais pas allé là-bas, tu vois, sans ça. Et donc sur place, en fait, ça m'a vraiment fait un choc parce que moi, j'étais déjà passionné. Donc après, tu sais, je t'avais dit tout à l'heure, j'écoutais Pete Rock, Dr. Dre. Je suis très vite allé en fait sur le South. Donc là, en South, j'ai vu
l'autre univers,
un autre monde, les DJ Skrull et tu vois les Zaytoven. Et donc là, je vois Gucci Mane. Enfin, ça m'a ouvert sur le South et je suis devenu matrixé de ça. Donc, tu vois, avec des potes à moi, tu vois, on était matrixé des mixtapes, la trap et tout ça, tu vois.
Ça saignait Dat Piff, tout ça.
Voilà, t'as tout compris. Dat Piff, c'est la référence. Donc on écoutait toutes les mixtapes, tu vois, underground et tout, ou même plus connus, les futurs. C'était vraiment l'apogée de tout ça. Et je me suis dit, attends, il y a un truc à faire. Et je parlais avec justement le Saleh Beats, donc c'est le cousin de mon pote qui habite à Atlanta, qui sont américains. Et lui, il fait un peu des prods aussi, tu vois.
Okay.
Pas de manière professionnelle et tout, mais en tout cas, donc on parlait un peu et tout. Et il me dit, bah vas-y, c'est quoi, tu peux passer si tu veux et tout, il n'y a pas de problème. Je vois que t'es envie, tu sais, on avait une bonne vibe, tu vois. Et du coup, il m'a dit, ah ouais, bah vas-y, j'ai sauté sur l'occasion.
T'as pas réfléchi deux fois.
Voilà. Et après, Atlanta, ce que je peux en dire du coup depuis, c'est que ça m'a. Ouais, je suis allé 6 fois depuis, 5-6 fois. Mais voilà, depuis 4-5 ans. Et
t'attends la green card là du coup.
Voilà, on espère un jour. Le visa, comment on dit, le visa.
L'anglais est fluide, tout ça, c'est carré.
Ouais, maintenant c'est bon. Ça y est.
Okay, c'est cool.
L'anglais du South, c'est encore, tu vois, l'américain.
Les petits accents forts et tout.
Maine, tu vois, on dit pas Maine, on dit Maine, tu vois. Donc voilà, non, en fait, après une révélation, ouais, musicale, artistique, parce que là-bas, c'est un autre monde. C'est comme si tu penses, tu fais du foot dans un pays, je sais pas, admettons, tu fais du foot en Chine. J'ai n'importe quoi, c'est un exemple, mais c'est cool, tu vois, genre t'es là machin, mais t'arrives au Brésil, tu dis waouh, en fait tout le monde comprend, ça joue dans les rues, t'as une culture, et c'est ça pour la musique là-bas, c'est le berceau de surtout dans le sud en plus de toute la musique moderne, donc voilà, c'est incroyable, c'était incroyable.
Et puis entre écouter, boum, être là-bas, le vivre, ça doit être
c'est ça, c'est ça,
terrible.
Et du coup voilà, suite à ça en fait j'ai rencontré En fait, par hasard, dans la rue, j'étais devant un bar, un gars, et en fait, on parle et tout. Et
scénario je demande un
service. Ouais, le scénario typique. Je lui demande un service, un truc, je sais plus exactement, peut-être mon chemin. On commence à parler et tout, le gars cool, et il me dit, ouais, tu fais. Enfin, il me dit, ouais, t'as un accent, enfin, tu sais, where are you from, tout ça. Je dis, bah, je viens de Paris. Il me fait, ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Pour eux, c'est incroyable. Ouais. Moi, je dis, bah, you know, I make beats, tout ça, je fais des prods. Et il m'a dit, ah, moi, je suis ingénieur du son, j'ai un studio. Donc, déjà, un truc de ouf. Il me passe sa carte, il me dit, tu fais quoi là après, tout ça. Je lui dis, bah, rien, tout ça, moi, je suis tranquille, chill et tout. Il me dit, bah, vas-y, tu sais quoi, passe et tout, on va écouter des trucs. Déjà, je dis, bon, il était 3h du mat, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on fait?
Nous, en France, à ce moment-là, on peut regarder un match NBA, mais là, toi,
voilà, c'est ça. Exactement, et c'est le bon timing pour ça. Et du coup, on se dit, bon, est-ce qu'on y va? Tu vois, en France, c'est un truc, t'es un peu pris de court dans notre culture, si ça se fait pas, comme ça, tu connais les gens. Et là-bas, ils sont très, donc, tu vois, ils sont très naturels et très spontanés, on va dire. Spontané. Et du coup, voilà, il me dit, vas-y, pull up dans mon studio. Je dis, bon, vas-y, j'y vais, rien à perdre. J'arrive et tout. Je lui fais écouter des trucs, là, il met le son à fond, déjà le volume d'écoute, c'est un truc qui m'a choqué, c'est ça, le volume d'écoute. Là-bas, c'est des fous, ils écoutent le son, mais je te jure, c'est trop en fait. Et donc du coup, il écoute le truc à fond et tout, et après, je laisse une clé USB, tu vois, je laisse la clé avec des beats et tout. Et donc quelques semaines après, donc, juste au moment où j'allais rentrer, il m'appelle et tout, il me dit, ouais, tu fais quoi et tout ça, attends, viens au studio, j'ai un truc à te montrer et tout. J'arrive, j'entends ma prod et j'entends une rappeuse qui peut, une voix féminine qui pose dessus. Et en fait, cette meuf là, donc, qui s'appelle B Simon, certains disent, et en fait, c'est une influenceuse. Maintenant, je crois qu'elle a 5 millions d'abonnés sur Instagram et tout, tu vois. À l'époque, elle avait 300K. Et en fait, c'est la première vraiment artiste, c'est mon premier placement, tu vois. Donc en fait, c'est que mon premier placement, c'est par hasard. C'est une meuf qui maintenant est une star aux États-Unis, mais c'est pas une star de la musique, mais c'est une star personnalité, on va dire. Et donc, la première qui m'avait payé une prod $300 à l'époque, tu vois. Donc voilà, c'était le premier truc. Ça m'a amené mon premier placement aussi, ce voyage-là. Donc c'est cool.
Non, très bien, très bien, très bien. C'est cool. Ok. On est obligé d'en parler puisqu'on parlait logiciel tout à l'heure. En plus, t'es parti au State. Et quand on entend, on se pose la question, ta signature, le oulala, Chaz. C'est quoi l'histoire autour de Stack? Ça vient d'une douce voix du Night Alien ou c'est quoi l'histoire?
Non, franchement, non. Tu sais, l'histoire, elle est simple. C'est que, en fait, tu vois, je connais tous les tags Murder, les 808, Mafia. Je me dis, mais d'où ça vient leur tag? Ils sonnent trop bien. Ils sonnent trop bien leur tag, tu vois. Et en fait, je me suis renseigné et j'ai vu, donc c'est moins sexy. L'histoire, elle est moins sexy.
C'est un générateur.
Non, mais c'est pas un générateur. Non. En fait, c'est un site qui s'appelle Voice Tag Gods. Okay. Et en fait, tu vas dessus, c'est à l'américaine, trop fort. Ils sont trop forts. Genre, tu choisis ton vocaliste, donc une meuf anglaise, une meuf américaine, un mec plus dirty, enfin plus street, un mec plus. Bref, t'as plusieurs choix de vocaliste. Moi, j'ai choisi, tu mets tes mots. Et je me suis dit, en fait, pourquoi oulala chasse? C'est parce que oulala, ça fait français. Mais en même temps, les Américains, quand je leur disais, tu viens de France, ils disaient, ah oulala, c'est un peu. C'est la vie, tu sais.
Ils aiment trop ça.
Donc je me suis dit, pour le marketing, c'est cool. Et parce que c'est un truc, c'est français-américain, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, oulala chasse, donc ça peut passer sur les deux territoires. Et voilà, c'est pour ça que j'ai, d'où l'histoire de oulala chasse.
Ok, très bien, cool, original, bien trouvé.
Voilà,
très bien.
C'est ça.
Du coup, en fait, c'est un bon moyen de trouver du coup son tag là-bas. Ok, très bien. Dans le podcast, on a l'habitude, on a un format dans lequel on aime bien savoir les coulisses des différents morceaux qui ont été réalisés, comment ça s'est passé, la connexion avec les différents artistes ou même la prod en elle-même. On a appelé ce format le Behind the Beats. Et du coup, pour ton cas, on a choisi 3 morceaux et on va en parler. Du coup, tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, si tu te souviens, puisqu'on a eu des guests aussi qui se souviennent même plus de comment certaines prods ont été faites. Donc voilà. Le premier morceau qu'on a choisi, c'est Moment de Kalash Criminel avec Big Flo et Oli. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est fait, qui est tiré du dernier projet de Kalash Criminel, si je ne dis pas de bêtises.
Yes, ouais, de ouf. Déjà, comme on dit, shout out à Reda Prince, Ray the Prince.
Qui est en fait, je suis dans le Merco avec Reda Prince.
Voilà, tu connais Reda, trop fort et tout, c'est mon gars et tout. Et en fait, on était ensemble, on nous faisait une prod. Qu'est-ce que je peux dire de spécial? En fait, ça fait un petit moment, tu vois. Donc, j'essaie de bien me rappeler, mais non, on faisait la prod et tout. Et en fait, après, il est parti en séminaire avec Kalash Krimi au Maroc.
Ok.
Et en fait, il m'envoie une vidéo, il m'envoie un truc, je sais plus. Il me dit, ouais, là, tout ça, là, il va poser dessus et tout. Et donc, j'étais en mode, bon, c'est cool, parce que j'aimais bien Kalash Krimi, j'avais bien envie de bosser avec lui. Donc, c'était cool et tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il me dit qu'il va y avoir peut-être un feat dessus, tu vois.
Ah, ok. Je savais même pas encore.
Je savais pas du tout, mais j'avais vu les interviews de Creamy où il parlait qu'il était pote. Big Flo Oli, c'était ses gars. Je me dis déjà, bon, ok, tu vois, c'est le monde, tu vois, le jour et la nuit qui se rencontrent. Mais tu vois, jamais je me serais dit que ça allait être sur une prod à moi et Reda, tu vois. Et donc, au final, après, il m'envoie une vidéo de Big Flo, tu vois. Big Flo qui pose sur. Ou il montre une vidéo. Big Flo qui freestyle, ouais, il est là en mode ah, il bouge sa tête, je suis qui bosse. J'ai dit, ah ouais, donc en fait c'est un featuring Kalash qui a mis Big Flo. J'ai dit ok, uh-huh. Big Flo et Oli, incroyable, tu vois. Et voilà, après tout simplement le. Ah non, et avant que le morceau il sorte, il demande les pistes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a eu une galère, donc on n'avait plus les pistes. Galère de disque dur. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je crois que c'est Reda.
On recommence à zéro.
On a dû tout refaire de zéro.
Wow.
Je crois que c'est Reda qui a tout refait de zéro, si je me trompe pas. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, on a galéré à retrouver les pistes. C'était sur son ordi, et donc finalement, machin, on a réussi à arriver à un truc cool, et le morceau est sorti. Et puis ça, pour le clin d'œil, tu vois, c'est marrant, quoi. Je trouve Big Flo, Oli, Red, comment il s'appelle, Kalash Criminel, c'était cool.
Je suis qu'un produit de mon environnement. Y'a plus personne dans les pires moments. En vie on meurt, on peut pas faire autrement. On se reverra peut-être dans l'autre monde. Yeah. Je suis qu'un produit de mon environnement. Y'a plus personne dans les pires moments. En vie on meurt, on peut pas faire autrement. On se retrouvera peut-être dans l'autre monde.
Mourir, on sait comment faire. C'est une chose qu'on peut faire seul.
Ah ouais, très cool. Un des morceaux que je préfère en plus sur le projet de Kalash Krimi. Donc, cool.
Et, ouais.
Shout out co-prod avec Reda Prince. Mm-hmm. Deuxième morceau qu'on a choisi, c'est Los Angeles de Léon. Celui-là, si je dis pas de bêtises, tu l'as produit solo.
Ouais.
Solo.
C'est ça.
Léon, très proche de toute la team, Riles, tout ça.
Grave.
Du coup, dis-nous tout. Comment s'est fait le morceau, la connexion? Il me semble que t'es très proche de tout le crew, hein, mm-hmm. avec Riles, donc.
De ouf. Riles, toute la Riles Sundays, en fait, mm-hmm. c'est le label, c'est donc ça. C'est toute la famille, c'est une grande famille. Elisa Paron aussi, qui est photographe.
Qui a sorti son book là, il y a pas longtemps. Là.
Voilà, et j'invite tout le monde à aller précommander, précommander, du coup le commander, parce que c'est officiel depuis quelques jours. Mm-hmm. Et franchement, voilà, toute la team, je leur passe un gros shout-out, une grande force, parce que vraiment c'est vraiment comme une famille. Et Léon, on s'entend trop bien. Léon, c'est de l'humain avant tout, tu vois. Et on a commencé à moi j'ai commencé à bosser avec Younes, qui est pareil, un gars de Riles et tout, et Riles en même temps, mais Riles à distance. J'ai bossé sur son premier album,
d'accord,
Welcome to the Jungle, mm-hmm. et ensuite Younes, on s'est connecté. Donc petit à petit, voilà, j'ai commencé à avoir toute l'équipe. Léon, on s'est enfermé en studio. Et je lui ai envoyé cette prod là à distance, je crois. Okay. Et je me suis dit que ça allait coller, parce qu'en fait c'est mélodique et c'est trap, tu vois. Et Léon, c'est Léo Lamelo. Donc tu vois, il est trop fort en mélo. Et
ah, le refrain, il est catchy.
Ouais,
de
t'as kiffé.
Ouf.
Ça fait plaisir. Et du coup, voilà, en fait, j'ai produit ça. J'ai fait une guitare, du coup, live, tu vois, c'est mm-hmm. moi-même qui ai joué la guitare. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure des harmonies quand, mm-hmm. quand j'étais petit et tout. Ouais. Mais en fait, c'est une harmonie de tierce. Donc c'est juste un écart de 3 pour ceux qui... Bref. Et donc une harmonie de tierce.
Et lui, direct, voilà. Il a glissé. Boum,
en fait,
boum, boum, boum.
Et lui, direct, boum. Voilà, il a fait boum, boum, boum. Incroyable. Franchement, fort, tu vois.
Ici, c'est trop mortel. Ah ouais, ça fly. Joue dans ma ville en cabriolet. Ah ouais, ça fly. On sort les flingues de Los Angeles. Sur le périph, 4 loups barres sur le périph. Los Angeles ou ma ville, faut du grand, faut de la malice. Elle est belle, elle est maline. Donne-moi ton corps et laisse-moi où tu y es quand ça arrive. J'suis pas de ceux qui font neige. J'ai des cernes sous les yeux. Seul, j'me sens bien. Personne pour te dire. L'oseille s'amplifie, j'garde mon âme. Petit, la vie n'est qu'un marathon. J'ai le nord sur la scène, mais j'en loue sur le mic. Boum, boum, boum.
C'est un de mes sons préférés que j'ai produit. Okay, et je crois qu'il marche bien aussi pour lui, donc c'est cool. Tu vois.
Ouais, quand j'ai checké par rapport à l'épisode, j'ai vu que quand tu vas sur son profil, c'est un des morceaux les plus écoutés.
Très, très cool. M. Pokora, pour l'histoire, tu veux une anecdote, M. Pokora, sur sa story, Il est à LA. Uh-huh. Il met ce son en story.
Ah, moi, je suis à propos de ce genre de story là. Moi, j'aime les gens originaux, tu vois, en story. Il y a une story, t'es à tel endroit. Là, cet été, j'ai vu plein de gens en Grèce. Même pas un petit morceau de Rick Ross. Même pas un petit Santorini Greece. Un petit Gitchi Liberace. Non, les gars. Non. Shout out à M. Pokora.
Gros shout out.
Tu savais s'il était avec madame ou.
Ah, il y a moyen. Je crois qu'elle était là. Elle twerkait derrière.
Non, ah ouais, non.
Non, je sais pas. Je rigole. Vous voyez que la route et la voiture, mais c'était cool, quoi.
Ben justement, lui, Léon, comment il a choisi le titre du morceau? C'est par rapport à la prod? Ça a inspiré ce titre?
Bonne question. Et bah, faudrait m'inviter pour en parler. Voilà. Okay. Parce que je t'avoue, je ne sais pas.
Très cool. En tout cas, ouais, shout out à toute l'équipe de Riles,
de la belle Riles Sunday, sa charmante. Il y a des gros projets qui arrivent. Ouais, le livre d'Elisa, Younes qui bosse sur une série. Sur une série Netflix, un des rôles principaux qui arrive, Riles qui bosse sur ses sons qui sort toutes les semaines, Léon qui sort aussi un projet bientôt et des singles, dont le dernier Wallet est incroyable, donc la nouvelle G comme on dit, ça arrive fort.
En tout cas, la cover du projet du label, elle m'avait terminé, avec les Grecs, j'étais mort. Très très cool, dernier morceau et pas des moindres, Working a Fool, avec Migos du coup. On l'a dit en intro, au départ, t'as vu la tracklist de la version de base de l'album. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? On t'avait dit que t'allais être sur le projet, c'était carré. Ensuite, par la suite, il y a eu la version deluxe où t'as vu que du coup que t'étais dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est produit? Connexion avec les gens à ETL, du coup, j'imagine.
Yes, bah en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, de base, j'ai fait la prod en 2020, du coup, il y a un an quasiment, en novembre. Parce que je bosse pas mal avec Done Deal. Done Deal on the track, pour ceux qui savent. Un gros producteur de ATL et tout, et surtout à l'époque, il avait fait Hannah Montana de Migos, donc voilà, grosse légende. Et je l'ai connecté petit à petit via des gens là-bas que je connais. Enfin bref, je sais pas, c'est un peu long à expliquer. Mais en gros, voilà, j'arrive en studio avec Done Deal et il voit que je viens de France et tout. Il dit, ouais, des trucs. Il m'identifiait. Donc après, je commence à parler avec lui, je lui dis, ouais, t'es chaud, je t'envoie des trucs et tout, tu peux les placer, tu modifies la. Fin, tu... En gros, je lui envoie une prod. Et lui, après, il rajoute des trucs dessus. Ouais. Tu vois, il fait écouter, etc.
En mode collab, quoi.
En mode collab, tu vois. En mode collab. Et du coup, voilà, je collab avec lui. Et il me dit, ouais, je suis avec Migos. Il y a Migos qui vient au studio demain. Et donc là, j'étais en mode, ok, d'accord. Donc là, c'est le moment, tu vois. Ouais. C'est dans ma tête, j'étais en mode, tu vois, je te disais tout à l'heure, des bousiers de South, tu dis Migos, incroyable, tu vois. Ils viennent à son studio à Atlanta. Donc déjà, je me dis, donc je suis à mon studio, tu vois. Et en fait, qu'est-ce que je me dis? Ma réflexion, c'était qu'en fait, quelle est leur, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont écouté quand ils étaient petits? En gros, moi, je me suis dit, pour les marquer, il faut un truc qui puisse connaître et identifier. Et en fait, pour ça, je me suis dit, bah, c'est Outkast en vrai, les légendes de ATL, tu vois. Je suis allé écouter des albums de Outkast pour m'imprégner du délire et tout. Et je tombe sur cette interlude de Stankonia, je crois. Kim and Cookie. Et là, je dis, mais ça, c'est incroyable! Tu vois, les fanfares, tu vois, la culture fanfare, la culture des boisses, tu vois.
Même sans prendre Outkast, vrai, je dis sans prendre Outkast, mais par rapport à la discographie de Migos, il y a plein d'instrus. Donc, tu as eu le bon filon, puisqu'il y a plein d'instrus où justement, ils ont des instrus, il y a ces instruments-là où ça part dans tous les sens, fanfare et tout. Donc, t'as bien misé, quoi.
Totalement. Et du coup, j'ai pris donc ce bout-là, je l'ai pitché, je l'ai remis en rythme, je l'ai changé. Mais en bref, je l'ai vraiment trituré. J'ai fait une vidéo sur mon Instagram, d'ailleurs, comment je l'ai fait, pour ceux qui sont curieux. Ouais. Et voilà, du coup, au final, bah, je prends ça, je rajoute des accords, des trucs. Et ensuite, je pars sur une partie B du beat. Partie A, c'est ça. Donc, c'est l'intro. Partie B, sale, tu vois. Ouais. Grosse ligne de basse. Donc là, après, c'est que de la compo. Il n'y a pas de sample. Et donc là, grosse ligne de basse et tout, groovy. Moi, je kiffe trop la basse, tu vois, depuis toujours. Et voilà, je joue tout ça, les drums. J'envoie à Done Deal. Donc pour avancer sur l'histoire, du coup il m'envoie une vidéo, je vois il bouge la tête, tu vois, j'entends Quavo derrière. En fait, pendant un an, j'avais 9 secondes de Quavo.
Tu l'as poncé, le snippet.
Voilà, je connais, je l'ai gardé pour moi, je l'ai poncé. Je me suis dit non, c'est trop, parce que tu vois, c'est incroyable, c'est Quavo, tu vois, Done Deal. Donc on avance dans l'histoire et tout, déjà c'est les péripéties de, tu vois, avec leur label, ils ont des problèmes, donc ils misent sur Lil Baby, donc Migos s'est mis en pause, il y a le Covid, tu sais, en fait ça a mis un temps infini au final pour sortir, Et donc je vois Culture 3, je me suis dit ça va être en janvier, parce que tous les cultures c'est fin janvier. Ouais. Moins de confinement, machin, bon, je me suis dit ça va être fin janvier, bim, c'est pas fin janvier. Donc au final, j'attends, j'étais comme ouf, tous les jours je pensais à ça, je te mens pas, tous les jours, parce que c'est un truc, c'est, ça peut, tu vois, ouais, c'est un accomplissement.
C'est un game changer, game changer dans une carrière.
Dans une carrière, tu vois, et donc au final, voilà, j'apprends donc l'album, il... donc lui, en attendant, bien sûr, il me demande les pistes, ouais. Je vois, il m'envoie les captures d'écran, Quavo qui lui dit, ouais, send me the stems, machin, un truc, mais il voulait des modifs sur un truc, donc j'étais là, 9h du mat, parce que là-bas le décalage horaire, je me réveille et tout, je vois ça, je suis en caleçon en train de faire une ligne de basse chez moi, tu sais, n'importe quoi, ouais. Parce qu'il fallait refaire un truc, enfin ouais. Bon, donc je charbonne le truc et au final j'envoie les pistes, pas de nouvelles, machin, l'album il sort, il donne,
tu vois, la tracklist,
il répond pas trop, je lui dis qu'est-ce qui se passe, je vois la tracklist, je suis pas dessus, je me dis bon bah vas-y, hein, je suis pas dessus et tout, tu sais, grosse déception, énorme déception, tu vois. Et
à ce moment-là, moi aussi, je vois le tweet que tu mets.
J'ai tweeté d'instant spontanément.
Bah, frustration, vois, normal, t'as extériorisé, c'est ça,
ouais,
c'est ça, normal.
Je sais pas, j'ai envie d'exprimer parce que c'est un truc que t'as gardé un an pour toi.
T'as bossé, normal.
T'as bossé, tu dis non, franchement, il faut, je veux voir, j'ai mis, je crois, la musique c'est dur ou je sais plus quoi. un truc bateau, mais tu vois. Et 5 jours après, je vois finalement, je l'appelle Dundee, il me dit ouais, peut-être sur le Deluxe qui va sortir dans 3 semaines. Je dis ah, ok. Comme au moment où ça sort, je l'appelle, je dis ouais, c'est pas dessus, c'est comment. Il me dit bah, je sais pas, truc lui-même, il savait pas, tu vois. Donc l'album, il sort, voilà. Truc, machin, et ensuite 5 jours après, je vois le Deluxe qui sort, Culture 3, avec mon son, et j'étais en session à ce moment-là, avec une chanteuse, tu vois, en France, dans mon studio, et c'est un pote à Riles, il voit, je regarde mon Insta pendant la session, il m'a identifié dans la story, je vois Migos dire, oh, putain, et là, tu vois, l'explosion,
extase.
Explosion, ouais. Explosion. Swear with the goons. Swear. Big step, I just came from the moon. Step, moon. I'm smoking the real one. I'm working the fool. I grip my tools. Right when I dropped out of school. Woo. Woo. And my dog gon' shoot. And his head ain't tight with the screws. I want your noodle, we spit out the cool. Patted the fake cause I didn't want the mule. Standing in the truck moving bow like I'm Luda. Ball head the coupe and I call it the Buddha. This a Glock with a 30. 17 nigga got locked up for burglar. Pull out the mop, he need surgery. Get the Maybach and lay back and close all the curtains. Lay back in the little room, I can tell you with thirsty. Fuck on the perk and get number of the burger. You catch a slugger, don't play with my brothers. Not with these knuckles, my child upper country. Know they with hay and we make all the butter. We from the bacon, we spank them with cutters. Hit a lid, didn't say shit on my mother. Came on a jet, this a UFO shuttle. How could I switch on my game like a bitch? This the same brother that gave me a fit. Kicked down the door and I made it legit. Gotta stay dangerous, I ride with a stick. I am too rich to be caught in the mix. 4G lifted, baby boy, I'm a kiss. Put on the fit, copy my drill. 30 right clear, block with the switch. Rhyming that chop, rest my back. Moving this shit, ain't packing no bag. Franchement, et là j'étais là en mode ah ouais. c'est fait.
En plus, même ton premier tweet, quand t'as fait, tous les gens qui te répondaient, ouais, te disent t'inquiète, peut-être tu seras dans la Deluxe et tout. Donc,
absolument,
vu qu'on a cette culture maintenant de la Deluxe, donc ouais,
absolument. Donc, et top, puis en top. Plus, pour l'anecdote qui est incroyable aussi pour moi, à petite personnelle, c'est que du coup, je suis en session, donc j'écoute même pas le son jusqu'au bout. Je suis là, faut que je fasse le taf en même temps, tu vois. Donc j'attends la fin de la session, j'écoute le son et tout. Mais je suis tellement comme un ouf que je partage, je fais des lives, des trucs, je dis à des gens, ouais, ça. Les gens, ils me donnent de la force et tout, et j'entends même pas le son en entier. En fait, c'est seulement après, le soir, que j'entends la fin du morceau où il y a Mike Dean, tu vois, Mike Dean, légende, il a fait un solo de synthé en reprenant les accords que j'ai fait pendant une minute. Il te fait une dinguerie de, tu vois, de musicalité et quoi et vous. Enfin, je dis, attends, donc j'ai Mike Dean, Dundee et Migos. Moi, un gars de, tu vois, un mec qui vient de Paris, de Lille, de, tu vois, enfin bref, qui vient d'années-lumière de ça. Donc j'étais en mode waouh, c'est incroyable. Donc voilà,
ça, le travail,
c'était
hein.
Cool. Ouais, ouais, franchement, c'était cool.
Le travail, les connexions, le voyage. Atlanta, comme quoi, tout s'aligne. Non, ça tue, franchement, et belle story à raconter autour du morceau, quoi. En tout cas, la chanteuse qui était avec toi au studio, elle a dû rien comprendre.
Ah, je te jure, la pauvre, il me regarde, mais qu'est-ce qu'il a? Migos, non, mais ils connaissaient, bien sûr. En fait, ils ont appris par les gens. J'étais pas tout seul à la session, ils ont ah, là, je crois, il a un gros truc qui est sorti. Donc, voilà, mais c'était cool.
Oh, top, top, très bien, très bien. On clôture l'année 2021. J'ai vu que pour toi, sur les réseaux, tu as mentionné que Cardo était le beatmaker de l'année. Ta prod préférée de Cardo, là, comme ça, Family Ties, ou bien c'est une autre?
Cette année, Family Ties, incroyable. Et en plus, pour l'anecdote, j'étais avec lui au moment où c'est sorti. En fait, j'étais à Dallas. Donc là, j'étais à Atlanta.
T'as des vraies anecdotes, toi.
Non, mais c'est un truc de fou. Mais je te jure, le hasard, tu vois. En fait, je bosse beaucoup avec un mec qui s'appelle Yo Dog. C'est un artiste en développement qui vient du Southside d'Atlanta, un creep. Et en fait, il s'avère que ce mec-là a été repéré par Cardo, tu vois. Et donc, il bosse avec lui et tout. Donc j'étais avec lui à Atlanta. Et en fait, ils avaient un séminaire à Dallas. Et en fait, je venais d'arriver aux États-Unis. Donc je dis, vas-y, j'étais avec mon pote Ben et tout ça. Je passe un shout-out, un producteur aussi. On a fait un son ensemble. exemple pour Yo Dog. On dit, ils sont à Dallas. Je lui dis, c'est quoi, viens, on y va et tout, on va là-bas et tout, on arrive à Dallas. Mais je comprenais pas pourquoi ils étaient à Dallas en fait. Parce que tu sais, c'est une ville pas connue, on va dire, tu vois, vraiment pour le. Voilà. Pas une grande ville du hip-hop et tout. Et surtout qu'ils viennent d'Atlanta, pourquoi aller là-bas? Et en fait, je vois, on arrive au studio avec Yo Dog et tout. Et là, je vois Cardo qui arrive, Lamborghini Urus, dans flambant neuve, blanche. Et en fait, il arrive au studio et en fait, bah, il était là au studio. Et Cardo, le jour où Family Ties sortait. Donc on était tous devant l'écran, retour de Kendrick. Cardo, tu sais, mec super humble et très, lui c'est un goofy comme on dit, tu vois, il fait des grosses blagues et tout, mais le mec c'est une légende.
Chaque fois quand il voit Boy Wanda, il partage des vidéos sur Insta.
Tu vois comment il est Cardo.
Tu rigoles.
Et c'est incroyable, tu vois. Et même du coup, après, je lui ai joué des prods, il me donnait des conseils, il me donnait des retours. J'étais en mode, parce que j'étais avec Yo Dog, du coup, tu vois, et Cardo. Et donc c'était un grand moment parce que Cardo, c'est une légende. Il nous sort, ouais, la veille, j'étais avec Drake, on finissait CLB. Puis la semaine dernière, j'étais avec Don Toliver pour faire ça. Enfin, tu sais, genre, il sort des trucs de fou, tu vois. Donc, ouais, pour moi, producteur de l'année, il est sur tous les gros projet, il a fait quoi? Il a fait Young Thug, il a fait Baby Kim, il a fait Don Toliver, Drake. Enfin, c'est le numéro un pour moi. Franchement, cette année, en tout cas, fort.
Tu mettrais qui
cette année? Bonne question. Cette année, attends, bah il y a Flemme qui a fait quand même une grosse année avec Freeze et tout. Après, il y a qui?
Tu peux toute la team, hein, toute la team proche, Amin Farsi, tout ça.
Oui, ouais, de ouf. De ouf. Et puis moi, après Tariq Azouz, bon, c'est, tu vois, c'est pas franc, il produit pas vraiment pour la France, mais pour moi, c'est le numéro 1.
C'est clair.
Tu vois, il a encore fait DJ Khaled. C'est un français, voilà, moi, Tariq Azouz, numéro 1.
Chauvin un peu. fort.
All time, même, je dirais. Franchement, je dirais Tariq Azouz, all time, numéro 1. Tu vois.
Là, il a produit dans le Rick Ross, donc. Non,
et en fait, ce qui est fou avec lui, tu vois, c'est qu'au-delà de la musicalité, enfin, du catalogue, en fait, c'est la qualité. C'est-à-dire que pour moi, c'est le mec, Tariq Azouz, genre, il n'y a pas de faux pas dans sa discographie. C'est ça que je trouve incroyable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs, tu vois, faut dire une réalité aussi. Il y a beaucoup de beatmakers en France, et ça, je dois le dire maintenant, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de beatmakers qui ont cours après le placement. Ouais. Et en fait, le mec, il va te dire en session, vas-y, je veux... j'exagère, mais il va te dire, ouais, vas-y, je sais pas, je veux un bruit de chaise. Tu vois, bah, tu vas faire un bruit de chaise parce que tu veux placer, tu vois. Et en fait, c'est dommage, parce que du coup, la musique, elle passe au second plan, tu veux le placement avant la musique. Je comprends, faut vivre aussi, tu vois. Et Tariq Azouz, ce qui est fort, c'est que lui... Bah en fait, il a jamais fait ce il a toujours, tu vois, grande musique.
Pas de déchets.
C'est ça, et c'est pour moi le numéro 1 à ce niveau-là, tu vois.
Voilà. Même là, je vois, bah, je crois que c'était cette année aussi le son qu'il a fait avec Fianso. Incroyable.
Incroyable.
La prod, tu la vois, la prod, elle va pour un carré normalement, mais grande Fianso musique. Aussi de son côté, il a plié ça, donc non, très très fort. OK, très bien. Cardo, Tariq Azouz. Oh. On retient.
Fort.
Shout-out aussi à son bras droit sûr et certain, évidemment, Tariq, hein. On ne sait pas. Fort. Street runner.
De ouf, street runner. De ouf.
Le mois dernier, tu déclarais également sur Twitter, selon toi, que le R&B ne fonctionnait pas en France parce que les suites d'accords étaient trop étrangères à la culture musicale. Tu mentionnais ça par rapport tout à l'heure, justement, à ton apprentissage de violon, solfège, tout ça, tout ce background gospel, soul. En ajoutant justement que le socle US, c'était le gospel et l'église qu'on n'a pas, nous, en France. Ce que je partage également.
Real talk, yeah.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a certains artistes francophones qui ont un ADN R&B plus couplé à un autre genre musical ou veulent pas être catalogués R&B. Ça, après, ça les regarde. Et côté US, ça a également évolué puisqu'on a les rappeurs-chanteurs. On a toujours également des artistes R&B ou soul pur. Du coup, ma question de dissertation de philo, c'est de savoir si le genre peut s'installer durablement, selon toi, en France.
Bah écoute, c'est une bonne question de philo. Allez, on va disserter une heure. C'est parti, je ramasse les copies ou vous ramassez les copies. En fait, moi, pour te répondre, je pense que ça peut être dilué dans un autre style. Je pense que pour moi, c'est là où Taïk, est fort. Et
avec la team.
Voilà, Black Dog, je passe un grand shout-out que vous avez reçu, qui
Black
est trop
Do,
fort.
Niadjiko,
voilà,
Yannick Perast.
Voilà, des tueurs à gages, en fait. Ouais. Ils sont trop forts. Et voilà, par exemple, ça, c'est l'exemple typique pour moi où ça peut cartonner. Mais ces fameux accords 7e, 9e, ils cartonnent. Mais si on le fait pur, c'est-à-dire avec une rythmique vraiment R&B, et en plus, ça, je pense qu'on va être trop encore loin du grand public français, je pense, tu vois. Donc ça peut marcher pour un genre de niche, genre Monsieur Neuf par exemple, qui fait ça super bien, mais cartonner au sens grand public et s'installer durablement en mode limite passer sur toutes les radios et tout, je pense que pour le moment en tout cas ça doit encore être dilué dans un autre dans une rythmique plus classique, tu vois. Et franchement, moi, le R&B, tu vois, la soul, c'est un truc que je trouve vraiment, c'est de la grande musique, quoi. C'est inspiré des années 60, enfin, les héritiers de tous les The Supremes, The Silvers, etc., les grands groupes. Et aujourd'hui, aux États-Unis, ce que je dis souvent, c'est que même un rappeur qui sait pas chanter, un Jay-Z, un Rick Ross, etc., en fait, ils connaissent ces accords parce que c'est leur culture.
C'est ça.
Et c'est là la grande différence avec, par exemple, tu prends Maes, tu vois. Je pense pas que lui, en grandissant, il a pas des parents qui vont à l'église, qui font du gospel, sa tante qui chante. Donc c'est une autre culture, c'est plus une mélancolie française, tu vois. Et eux là-bas, un Jay-Z, comme je l'ai dit, même s'il chante pas, il a son cousin, il fait de la guitare, sa tante, elle est à l'église. Donc tu vois, c'est ça, c'est une culture.
Et par rapport à cette culture-là, il va largement préférer amener un chanteur ou une chanteuse que forcément jumper sur l'autotune, même s'il peut très bien réaliser ça, quoi.
Il y a juste Mick Mill, je trouve un peu déçu parce que lui, il a essayé de le faire et j'ai pas kiffé. Sur son dernier album, quand il a essayé de chanter, j'ai dit non, mais laisse ça à Morey, laisse ça à, tu vois, Rod Wave ou des vrais chanteurs. Il a essayé de chanter, mais non, c'est pas bon, c'est pas pour lui. Rap, frérot, rap.
Et t'as un petit peu un œil sur justement cette scène-là, en francophonie en tout cas, des artistes avec lesquels tu voudrais collaborer. T'as mentionné toute l'équipe de Taiki, mais. Ouais. Si tu avais l'opportunité soit de bosser avec lui ou d'autres artistes.
Grave. Je trouve que ça peut être un truc super chambé. Mm-hmm. Mais en vrai, je trouve que la langue française, c'est dur à diluer dans ce. Enfin, en fait, là-bas, le R&B, ça parle énormément de sexe. C'est très explicite. Mm-hmm. Et en fait, quand tu traduis en français, c'est genre, admettons, les mêmes paroles et que tu. C'est en fait ça fait pas le même effet, tu vois, et du coup on parle de trucs plus soft en français et donc ça fait tout de suite un peu mielleux, tu vois, je sais pas comment dire, en fait, même si musicalement c'est incroyable, il y a moins ce côté real que y a dans le R&B américain, donc pourquoi pas, mais c'est pas un truc sur lequel je me penche, tu vois, genre,
très bien.
Le moment en tout cas, mais je serais grave intéressé d'écouter des trucs, envoyer s'il y a des choses.
Ok. Du coup, on parlait de la francophonie, mais toi, t'as un pied aux US. Donc, est-ce qu'il y a des trucs, des artistes avec lesquels t'essayes de voir s'il y a moyen de moyenner, de placer des artistes R&B US?
Grave. J'aimerais beaucoup placer des artistes comme Black, par exemple. J'ai rencontré son DJ, c'est devenu un bon gars à moi et tout, tu vois. Donc là, j'essaye de.
Vraiment, Ediel, ça va pour toi.
Hein. Non, mais en fait, après, c'est ça.
Bientôt, on va devoir front row en train de checker Trae Young, je sais pas. Hein.
Non, c'est pas l'objectif. Non, on va rester humble. Mais en tout cas, oui, voilà, par exemple, Black, tu vois, effectivement, j'aimerais beaucoup être sur l'album parce que j'ai écouté des exclus qui vont sortir sur son prochain album normalement.
Ok.
Incroyable. C'est... En fait, à la base, il vient d'Atlanta, donc c'était très sombre, tu vois, son album en 2018 et tout. C'est très de la trap soul, tu vois.
2018, et là, maintenant, c'était quoi? Atlanta, ouais.
Exactement. Il a pas sorti de projet depuis de vraiment d'album. Et en fait, maintenant, il habite à LA. Donc, j'ai écouté dans les sons, il y a tout de suite plus de guitare. Enfin, c'est un peu pas solaire quand même pas. Ça reste Black, tu vois. Mais il y a un truc très. Je sais pas comment dire. Plus solaire en fait que le truc dark deep qu'il avait avant, voilà, donc une musicalité incroyable.
Bah après, ça me surprend pas que tu dis ça parce que par exemple moi cette année quand je l'ai vu début d'année 2021, quand je l'ai vu sur un son avec Rema et d'autres artistes, j'étais surpris, tu vois. Donc bon, au final, si via LA en vrai, tu vois, comme quoi le lifestyle de l'artiste fait que je dirais que ça se retranscrit sur sa musique.
De ouf.
Ok, très bien. En tout cas, ouais, cool d'avoir ton avis sur cette scène R&B, sur ce genre musical. Autre post que tu avais fait, il va croire All Stalk sur Twitter, mais c'est toujours marrant et intéressant d'échanger sur les différents takes. Concernant le manque de branding et de visibilité des compositeurs français, en comparaison à d'autres pays européens, tu avais fait justement un post par rapport à ça, les beatmakers du coup européens, africains, US. Nous, on le sait en faisant ce podcast et même par rapport aux médias, le plus important pour un compo avant tout, c'est d'avoir sa prod payée en temps et en heure, puis le reste vient après. Et dans un premier temps, concernant la visibilité, toi, ton côté, t'as pas de problème à te montrer, que ce soit en vidéo, photo ou autre. Je voulais savoir, est-ce que tu penses déjà que c'est le cas pour les nouveaux beatmakers qui arrivent, tes homologues, toi, tu penses que c'est le cas? Ou bien il y a encore un frein par rapport à ça, sans compter les superstars des juniors à la prod, Boumidja, Core, Le Motif, tout ça.
D'accord. Sur la nouvelle génération qui arrive, je pense qu'il y a un peu des deux, hein, à mon avis. Bah, tu prends un Izzo, par exemple, qui lui, c'est totalement là-dedans. Ouais. Il se montre à fond. Ouais. Il en fait des caisses à juste titre parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est grave cool, tu vois, c'est grave pertinent. Et après, t'as, je crois, par exemple, Kozet, qui lui, je crois qu'on voit pas son visage. Donc, t'as un peu les deux.
La seule photo qu'on utilise quand on fait les sorties de la semaine, c'est la même photo. C'est la photo de signature qu'elle est chez Universal.
Voilà. Et bah, tu vois. Donc, il montre son visage sur cette photo, pardon.
C'est la photo, tu vois, la photo instinct.
Où il a un masque ou un truc.
Non, pas du tout. Il montre.
ouais. Bon, bah voilà, donc il le montre quand même, mais je savais même pas.
Mais sinon, à part ça, ouais, il n'y a rien d'autre.
Ok, du tout. Ok. Et d'ailleurs, trop fort aussi au passage, tu vois, c'est un tueur à gages. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a les deux. Je pense que la nouvelle génération, c'est comme l'ancienne, je pense qu'il y a les deux, mais. Après, tout dépend de ta personnalité, ça dépend vraiment des gens. Moi, par exemple, je sais que, tu vois, je suis pas non plus en mode ISO, c'est-à-dire je suis pas là à mettre toujours tous les jours des photos de moi en mode je suis à la piscine ou tu vois, des trucs comme ça. Mais j'ai quasiment que des photos studio et tout, mais j'en mets quand même, tu vois. Donc c'est un peu, je pense que ça dépend, parce que c'est ma personnalité, je veux pas non plus prendre toute la lumière et tout, mais je veux pas non plus être un homme de l'ombre, tu vois. Donc c'est un peu, un entre-deux que moi j'essaye de trouver. Donc chacun doit trouver son équilibre. Et être épanoui. Ouais. Et voilà. Je pense que c'est ça.
Et tu parlais aussi du coup du côté branding, le fait que certains compos sont invités, tout ça. En France, je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué vu que par rapport à la culture beatmaking, c'est pas super installé. Du coup, est-ce que tu penses que justement le fait d'accentuer un petit peu sa visibilité, ça peut justement faire coulisser cette partie branding et peut-être faire naître différentes collaborations, partenariats, je sais pas, de la synchro ou autre,
grave.
Et que l'image d'un beatmaker elle va grimper. Et peut-être limite en France, ça va servir pour asseoir le statut d'un beatmaker et se faire respecter, je sais pas, peut-être au niveau de d'avoir ses prods payés ou autre.
De ouf. Mais en fait, c'est un ensemble de choses, mais grave, déjà, je suis totalement d'accord avec ça. Tu vois, Takeez, par exemple, aux States, donc Takeez, tu vois, depuis 3-4 ans, c'est pour moi.
Takeez,
voilà. Et donc lui, il est trop fort, tu vois. Et en fait, il a un partenariat avec Bel Air. Il a sa tête sur des bouteilles de Bel Air, tu vois. Bon, faut pas forcément la promotion de l'alcool, mais il chante pas. Il chante pas. Et en fait, en France, ça, on l'a dans l'électro. Ouais. J'ai remarqué. En fait, c'est-à-dire que c'est vraiment une différence. C'est que là-bas, les producteurs hip-hop, c'est comme nous, les producteurs électro. Tu prends DJ Snake, il chante pas, mais il est mis au rang de star et il est respecté, il est invité, il est connu, etc. Comme d'autres, je sais pas, tu prends David Guetta, enfin Bob Sinclair, etc. Donc eux, ils chantent pas, mais ils sont, voilà, encore une fois, mieux. Mais dans le hip-hop, on a encore du mal à trouver la place du producteur, tu vois. Donc on doit se mettre en avant, mais en même temps, on se met pas trop en avant parce que c'est l'auteur qu'on doit mettre en avant. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu ce truc-là.
Alors qu'en vrai, il y a de la place pour tout le monde.
En vrai, il y a de la place pour tout le monde. C'est de ouf, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un manque de culture. Mais j'ai l'impression que petit à petit, c'est vraiment en train de changer. Parce qu'il y a de plus en plus de petits qui font des prods. Tout le monde connaît. Il y a vraiment un truc qui est en train de changer. Donc peut-être que dans 10-15 ans, ça sera évidemment mieux. Mais il faut aussi dire une chose pour rétablir la réalité. Je pense, à mon avis en tout cas, que tu vois, en fait, rapper en anglais, c'est tellement facile. C'est-à-dire que le texte, en vrai, tu vois, c'est du... Enfin, si tu traduis des... Pas tous, genre Kendrick, Eminem, c'est du poussé, mais bon, on va dire le mainstream qui arrive, c'est pas les paroles. En vrai, ils sont obligés de se démarquer sur la musique parce que les paroles, c'est tout le monde peut rapper. En France, c'est plus... Pas l'inverse, mais on est plus porté quand même sur la plume, le texte. Et du coup, la musique derrière, bon, c'est important aussi, mais on la met pas aussi en avant que le mec qui va trouver tel punchline ou tel truc. Alors qu'aux States, tu vois, dans la culture des clubs, des strip clubs à Atlanta, ce qui fait bouger la strippeuse, c'est pas la punchline, c'est la sub, c'est la club, tu vois, c'est la prod. Donc, l'importance du producteur à Atlanta, je te dis la vérité, même, il est plus important que le rappeur. Vraiment, tu vois, t'arrives en studio là-bas, t'es producer, c'est genre... les gens, ils ont un certain respect, tu vois, pour ce métier-là, pour ce que tu fais. En France, tu es beatmaker. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu cours parfois au placement. On va te demander de la drill, on va te demander de l'afro, on va te demander de la variette ou de la trap. Et sans vraiment, parfois, malheureusement, ta couleur à toi, tu vois. Là-bas, c'est l'inverse, il faut imposer une couleur. Donc, on est encore loin, mais on va dire qu'on s'améliore. Okay. Voilà, c'est ça.
Très bien. Après, en tout cas, de ce que j'ai vu en 2021, niveau branding, c'était pas mal du tout. Après, t'as Universal, par exemple, ils ont beaucoup de compos en publishing. Je pense à du Sofiane Pamar, niveau jeux vidéo, en début d'année. Après, dans d'autres structures, j'ai vu justement, on parlait de Flemme, Amine Farsi, et pas mal d'autres compos qui ont fait justement les dernières pubs prod, les dernières pubs Adidas, là, avec des différents rappeurs. Et même Bloody qui a fait une pub.
Anderlecht, c'est ça,
Incroyable la prod.
Bloody, trop fort, un futur grand producteur mondial, je pense.
Même pas 25 en plus, je crois. Donc...
De quoi en âge? Il a 18 ans. Tu vois. Ou peut-être 19 maintenant, je sais plus. Mais en tout cas, très, très, très jeune et très, très, très fort.
Et justement, à ce propos-là, on voit que tu shout-out Bloody. On a checké les tweets, mais à côté de ça, on tient à rappeler que Chaz est toujours là pour shout-out ses confrères, que ce soit aux US, les Wavemakers, Artunok sur Slam Language, tout.
Bien sûr.
Osiris sur Striking de Migos et ses gars d'Aero.
Et évidemment, toi-même sur Culture 3, la Deluxe. Donc, très, 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 très cool.
toujours.
Ça tombe bien du coup qu'on parle un peu structure business, puisque toi de ton côté t'as montré ta propre structure Overtime. Mm-hmm. Est-ce que tu peux un petit peu décrire l'écosystème autour de cette structure pour celles et ceux qui connaissent pas?
Bien sûr. Alors en fait le Overtime, ça c'est le studio et la société c'est Overseas. Voilà, okay. juste pour préciser. Donc Overseas, O-V-E-R-S-E-A-Z. Donc là en fait c'est une société label, édition, management, et en fait j'ai créé ça pour pouvoir développer des nouveaux talents, signer des gens et moi-même aussi me structurer en mode entrepreneur, parce que bon, quand tu fais des prods au début t'es souvent auto-entrepreneur. Mm-hmm. Et là je me suis dit allez, on va créer en plus d'auto-entrepreneur une vraie SAS, tu vois, une mm-hmm. société, et pouvoir donc signer des autres. Par exemple, là, je suis en train de, tu vois, j'aimerais en tout cas, et c'est en train d'être fait, on va dire, d'accompagner des loopmakers, parce qu'il y a, en fait, il y a des loopmakers trop forts en France, tu vois, et je sais que tu l'as dit.
Benji aussi, j'avais entendu, il a dit ça, pareil.
Ok, c'est... et bah, de ouf, bah, voilà, Benji a souvent raison.
Il a fait un Discord justement à ce propos-là pour justement échanger avec plein de beatmakers, tout ça. Donc,
yes, bah oui, en plus, je suis dessus, bien sûr, je suis dessus, de ouf. Et voilà,
on était dessus également, mais après, on s'est fait éjecter parce qu'évidemment, on faisait rien dessus, mais c'était pour voir comment ça procédait, très très cool, franchement.
C'est top.
Shout out à Benji.
Donc la société, voilà, de ouf, shout out à Benji, et puis voilà, la société elle est là pour ça, pour accompagner, développer, signer, et puis overseas, donc ça veut dire le pont, tu vois, essayer de faire le pont, les États-Unis, la France et l'Angleterre, enfin l'Afrique, partout, tu vois, donc voilà, et le studio Overtime qui a Saint-Cloud, et puis on a tous les artistes qui viennent du moment, bah, il y a Koba Ladé ce soir, et en ce moment il y a qui, il y a Dinos, on a eu Laylo, franchement tout le monde, donc ça se passe bien, tu vois, Niska qui a fait surtout son album là-bas, Riles qui vient là, Kalash, tu vois, on a fait son album là-bas aussi, donc voilà.
Très bien, c'est cool,
l'écosystème quoi.
Et du coup t'as des artistes dans le viseur là par rapport à la structure, ou
tu veux dire à signer?
Ouais.
Bien sûr, moi j'attends, on va voir ce qui se passe, mais ouais grave, je suis grave dans cette démarche là. Et de signer des artistes, des producteurs, des compositeurs, etc. Donc ouais, de ouf.
Ok, très bien. Et par rapport justement du coup à ça, est-ce qu'il y a une équipe autour de toi ou bien t'es au four au moulin par rapport à ça?
En fait, moi je bosse beaucoup avec Joris qui est mon DA de Warner Chappell.
Ah, donc, qui est de, si je dis pas de bêtises, manager de Banks Beat.
Exact, et de Ikaz, je crois aussi.
Ouais.
Ikaz et Banks, et Skuna aussi. Voilà, donc Joris, que je passe pareil, un shout out.
Ouais.
Qui on s'entend très bien, c'est un bon, et en plus, on écoute la même, enfin, on est dans le même délire en plus, donc c'est très fluide. Mm-hmm. Avant, j'étais managé avec Music is Coming par Johanna. D'accord. Donc là, on bosse plus ensemble, mais en tout cas, ça se passait vraiment très bien. On a fait des belles choses, etc. pendant presque un an. Donc maintenant que j'ai plus de manager officiel, c'est moi qui m'occupe de cette partie-là.
D'accord.
Avec des avocats aussi. Mm-hmm. Et donc voilà, on est à gauche, à droite, mais toujours en essayant d'être le plus professionnel possible et pas s'éparpiller non plus, tu vois. C'est ça aussi la balance.
Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. C'est
ouais, faut pas s'éparpiller.
De l'artistique, c'est et ça. Business, tu arrives à te retrouver.
En fait, moi, le truc, c'est que j'ai fait une école, donc je faisais de la musique à côté quand j'étais plus jeune. Je faisais une école de management de commerce à côté. Mm-hmm. Et donc, ça m'a aussi donné une formation business. Je travaillais en entreprise avant, tu vois.
D'accord.
Donc, j'ai aussi je comprends qu'il y en a certains qui sont vraiment que artistes et ils ont pas du tout de repères sur l'argent, comment les structures. Enfin, tu vois, eux, c'est la musique, ils ont absolument besoin d'un manager. Mais moi, je me rends compte de plus en plus que
tu peux faire les deux.
Je peux faire à mon niveau les deux, tu vois, et plus besoin d'avoir un avocat, vraiment un juriste pour regarder les contrats, les trucs, que vraiment un manager, parce que souvent un manager, des fois, t'attends peut-être, tu vas peut-être être trop exigeant envers lui. Alors que toi-même,
enfin, des trucs que tu peux les faire, que tu peux faire toi-même, que
ça va jamais être mieux fait que, enfin, moi, souvent, ça a été que ça va jamais être mieux fait que par moi-même en général.
Okay.
Faut trouver des placements, Migos, enfin, tous les trucs que j'ai pu faire, c'est par moi-même.
Okay.
Donc, je me dis, bon, voilà, un manager, pour le moment, on verra, tu vois, on verra.
Okay.
Tu parlais de Isla Management, Isla Management, tu vois.
Je sais pas, eux, ils font un travail. Le CEO, j'ai jamais vu de vidéo, donc je
sais pas comment ça se prononce. C'est vrai, Simon. Yes, et bah, Kioncardo, d'ailleurs, Boy Wanda, etc., comme tu l'as dit, bah, eux, je trouve que voilà, c'est peut-être, tu vois, si j'arrive à m'en donner un niveau d'avoir un management américain qui puisse vraiment apporter une valeur ajoutée, peut-être, tu vois. Mais pour le moment, ça va.
En France, à cette échelle, ça se passe quoi.
C'est ça, c'est
okay,
ça.
Très bien. Du coup, si moi ou une autre personne voulait se lancer dans le beatmaking jeu, par rapport à ce que tu fais actuellement, que ce soit au niveau business ou même artistique, premier conseil que tu donnerais serait lequel?
Le premier conseil que je donnerais, c'est de tenir sa musique, sa ligne directrice artistique, tu vois. De pas forcément chase le placement. Parce que je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait tous, que moi j'ai fait. Et en fait, on va se perdre des fois artistiquement, tu vois. Et en fait, à la fin, ce qui reste, c'est ton catalogue. Donc, c'est vrai que l'argent, c'est important, évidemment, et il faut manger, etc., tu vois. Mais si tu as un catalogue où tu dis, mais j'ai fait ça, ça, ça... En tout cas, moi, c'est mon avis, c'est mon conseil, tu vois, c'est que si t'as un ego, toute personne qui fait de la musique, je pense qu'elle a un minimum d'ego, et du coup, tu vas être fier de ce que tu fais, tu vois, et de voir des musiques où t'es pas fier, ça te rend triste, tu vois. Donc ça, c'est un premier conseil pour au début, de vraiment construire une couleur, et si t'as en plus un artiste avec qui tu t'entends bien, genre, quand je dis un artiste, c'est un vocaliste, enfin un rappeur, etc., chanteur, chanteuse, bah de s'associer, trouver une vraie couleur, et de
faire en sorte
que ça pète. Voilà, monter ensemble. Pour moi, ça, c'est le meilleur truc à faire. Et si t'as pas ça, le deuxième conseil, c'est de faire du réseau, tu vois. Si jamais tu veux vraiment être dans une manière de chase le placement, sortir des événements, Instagram, enfin, voilà. Voilà.
Surtout que c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, si tu fais des bons placements, si tu fais du zéro déchet, comme tu disais à propos de Tariq Azouz, t'es sûr que quand on va t'appeler, c'est pour ta couleur et pas parce qu'on a besoin d'un beatmaker et qu'on va t'appeler pour dire ouais, fais-moi une prod comme un tel.
Exactement. Et t'as tout dit, c'est-à-dire que j'en parlais récemment avec, avec Ken et Ryu, je crois, et que justement on avait exactement.
Spectaculaire, tout.
Voilà, exactement, tu vois. Et du coup, cette discussion a fait que justement on s'est dit que à un moment donné, bah, eux par exemple, c'était les producteurs du moment, mais est-ce qu'on les appelait parce que vraiment on aime leur couleur ou juste parce que c'est les mecs hot, tu vois? Et donc c'est.
En tout cas, moi je me dis, enfin hein, après je sais pas si c'était une question que tu posais, mais quand tu vois tous les prods qu'ils ont fait, que ce soit pour La Crime, Dinos ou Dossé,
de ouf.
Si Oumar va pas chercher énormément à gauche à droite, c'est que les gars. Tu vois, ils font le taf, quoi.
Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. En fait, c'est qu'en externe, enfin, quand les gens vont les chercher, je pense qu'à un moment donné, enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit, tu vois, c'est qu'on venait les chercher plus parce que c'était les producteurs hot du moment, que, ils ont leur couleur. C'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais que, en studio, même si c'est, en fait, c'est-à-dire que quand t'es en studio, même si t'es le mec, comme tu dis, Ken et Ryu, Pyroman, etc., parfois, on va quand même te dire, ouais, t'as vu, en ce moment, j'ai envie de faire une drill afro, tu vois. Alors que c'est pas ton, non, mais tu vois, faut aussi respecter ce truc-là. Et comme si tu construis ton catalogue qui fait que, par exemple, Causé, tu vois, je pense qu'il a sa couleur, il a ses trucs, tu vois. Je pense pas que demain il va faire une variété, enfin peut-être, tu vois, j'en sais rien, mais en tout cas, dans son délire actuel, faire un son de variété, tu vois, j'ai n'importe quoi, en mode. Ou du son à la nappe, tu vois. Et donc, je pense que si on va le chercher en studio, faut pas lui demander, vas-y, fais-moi une Joule, je pense. Tu vois, peut-être qu'il le fait, hein, attention, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une certaine musicalité, une certaine richesse,
une certaine identité,
tu vois. Et donc, je pense que c'est important de trouver son identité. Plutôt que de chase le placement. Et même si ça prend 3-4 ans de plus, et ben au final, tu seras beaucoup plus satisfait et ça se passera mieux, je pense, que de placer à tout prix et de faire des fois n'importe quoi, tu vois, musicalement.
Ça marche. C'est mon avis.
Ouais, voilà. Comme pour un rappeur. En fait, ce que je dis là, c'est pour moi, à mon avis, exactement comme pour un rappeur. Okay. Pour un rappeur, c'est pareil. Tu peux très bien te dire, vas-y, je vais faire une recette qui marche. En ce moment, c'est Joule. Je prends un type beat Joule, je pose et on verra. Mais en fait, construire un univers comme par exemple La Fève, il fait, tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent parce qu'au final, ça prend plus de temps, mais son public, ça sera un vrai public. Ils voudront sa couleur. Qu'un mec qui va faire un son de playlist à la Joule, à la Naps, à la Maes, etc., bah, c'est un peu interchangeable. Et donc, sur le temps, ça va peut-être marcher plus vite, mais sur la durée, ça durera moins, tu vois, je pense. Donc, voilà. Pareil pour un artiste, un beatmaker.
Très bien. Cool. 2022, il me semble qu'il y a un projet qui arrive.
De ouf. On y réfléchit là. Je suis en train de réfléchir dessous. J'ai grave envie de le faire, comme Banks et Ikaz l'ont fait d'ailleurs. J'ai écouté les projets qui vont sortir. C'est des dingueries. Franchement, Banks Beat, c'est une dinguerie là ce qu'il prépare. Ikaz aussi. Donc,
en plus, Ikaz, le projet, il est sorti en janvier 2021. Ou le projet, il va. Ok. C'est pas au courant. Très bien.
2022, je crois qu'il a tweeté ou il a mis sur Instagram March 2022. Je sais pas si c'est un single ou si c'est le projet, mais en tout cas, moi, je sais qu'il est dessus. Et voilà, moi clairement je m'inscris dans cette démarche d'amener une couleur et plutôt que de se positionner en tant qu'artiste à part entière, producteur, et d'inviter des artistes avec qui je suis proche dessus et d'autres, tu vois. Voilà, donc c'est clairement une démarche que j'ai envie de faire.
Les beatmakers / producteurs qui ont pu le faire récemment, ça a très bien donné. Là en tête, j'ai un Twinsmatic, son album Atlas, très très bon album, tu vois. Les gens sont venus, ont suivi la couleur et ça donne un très bon projet. T'écoutes le projet de A à Z, les morceaux s'enchaînent super bien et tout, et tu vois que un vrai album de producteur, quoi.
Absolument, donc, absolument. Et c'est comme ça aussi, tu parlais de branding tout à l'heure, c'est ça aussi qui pense qu'il passe par la case projet, les gens qui passent par la case projet, ça met aussi en avant une couleur, un branding, quelque part. Donc ça peut être aussi une réponse à ça.
Ok, ouais. Du coup, là, pour l'instant, tu envisages le projet, mais il n'y a rien d'établi pour l'instant.
C'est ça.
Si c'est un EP ou autre.
Je pense que ça va être un EP déjà, tranquille, tu vois. Mm-hmm. Pas énormément de titres, mais avoir vraiment amené une vraie couleur, encore une fois. Mm-hmm. J'insiste là-dessus. Et je ne sais pas encore si, par exemple, je prends des sons déjà faits qui ne sont pas sortis, mm-hmm. tu vois, avec des artistes avec qui j'ai pu travailler, ou alors de faire vraiment des sons pour ça. Okay. Tu vois, peut-être faire une lost tape, Chaz lost tape, tu vois, un truc comme ça. Okay. Ou alors de faire un vrai projet, voilà, Chaz présent. Tu vois, je sais pas quoi, enfin, je suis en train d'y réfléchir, mais voilà, clairement. Ouais.
Et du coup, on rentre dans 2022. Est-ce qu'il y a des bon, on sait pas comment ça va avancer niveau gouvernement, mais est-ce qu'il y a des voyages qui sont planifiés, que ce soit côté US ou même côté UK, puisque on sait que tu as fait des prods de l'autre côté de la Manche un petit peu avec des artistes UK.
Ouais, j'avais bossé avec Snigbo sur son dernier album. Getz aussi un peu, qui s'est pas sorti, mais on avait bossé ensemble. Ouais, clairement, bah après, moi je suis souvent dernière minute. Hein. C'est-à-dire que t'as vu le voyage là, tu vois, en plus on a fait un périple parce qu'en fait là, pour aller aux États-Unis en juin, en juillet, il fallait à l'époque 15 jours hors espace Schengen. Mmh. Donc ça veut dire qu'en fait, on a fait avec mon pote Ben, du coup, on a fait Martinique, Guadeloupe, République Dominicaine, et ensuite on a pu aller aux États-Unis. Wow. Donc c'était à la fois des vacances aussi, ouais, bien sûr, tu vois, mais c'était quand même un sacré périple, tu vois. Voilà, c'était très beaucoup d'avions, beaucoup d'escales. Mais là, du coup, on espère qu'avec l'ouverture des frontières, normalement, je crois que c'est toujours aux États-Unis, on peut y aller, de pouvoir y aller directement, tu vois. Ouais. Mais pour le moment, rien de planifié. Si ça ne change pas, j'espère y aller en 2022, mais je sais pas encore quand, tu vois.
En attendant, vive le 21e siècle, les connexions internet, les mails et tout ça, quoi.
Totalement.
Ok, très bien. Du coup, Chaz Oulala sur Instagram, Chaz _ producer sur Twitter. Mm-hmm. Vous pouvez également vous rendre sur Spotify et trouver une playlist avec tous les morceaux qu'il a produits, dispo en bio de cet épisode que vous écoutez. Son Genius ou son Tidal, dans lequel vous pouvez retrouver les crédits et écouter les morceaux. Dernière question avant de te libérer, Chaz. Si tu devais choisir un compo que tu connais à recevoir dans notre podcast, quelle personne ce serait?
Un seul compo? Ah, il y en a beaucoup, mais attends. Je peux en dire plusieurs ou pas? Ou c'est chaud? Un seul?
Il n'y a pas de souci.
Le premier qui me vient à l'esprit, je vais dire... on parlait tout à l'heure, je vais dire Reda Prince. Je pense qu'il a, c'est quelqu'un aussi hyper intéressant. Je peux dire.
On l'a vu là en plus la semaine dernière en studio avec Kobo et Damso.
Ok.
J'ai hâte du retour de Kobo, donc on espère que ça va arriver vite. Hein.
Fort. Et Tariq Azouz aussi, tu vois, voilà, il y en a trop. Senpai Kachi, un jeune de l'équipe de Real Sunday, super fort et qui est, voilà, pareil, qui arrive fort. Voilà, j'en dis trois comme ça, il y en a d'autres. Alex, je passe bonjour à tout le monde. Voilà.
Très bien. Écoute, merci d'être passé sur le podcast.
Bah, merci
à vous. Le meilleur pour la suite et 2022. On espère que. Plus de certifs pour toi et puis force à toi pour la suite. Hein.
Merci et ça tue votre média, donc de la Musicopolis. Incroyable, allez suivre. Voilà.
Merci à toi. Peace.
Voilà, on était donc en pleine immersion dans le monde de Chaz. Encore un grand merci, un grand shout-out à lui d'être passé sur le podcast. C'était une discussion super riche. Comme on vous l'a dit en intro, on a pu échanger sur énormément de sujets, de son parcours à l'industrie, à différents genres musicaux, mais aussi, vous n'avez pas menti, plein d'anecdotes croustillantes à venir et qu'il a pu vivre entre la France et les États-Unis. On lui souhaite le meilleur pour 2022, son EP qui arrive fortement, on reste à l'affût évidemment pour la sortie de cet EP. Évidemment, ces différentes prods qu'il va placer en 2022, plus de certifications qu'on lui souhaite. Nous concernant, on arrive très vite avec un nouvel épisode d'un ou d'une DJ ou d'un passionné de musique. Et pour suivre l'actu de la Musicopolis, comme d'habitude, Instagram, Twitter, le site web dlm4.com avec notre dernier article sur les producteurs, les prods qu'on a kiffé sur ce deuxième semestre et toute l'année 2021. Et encore une fois, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et des commentaires sous l'épisode que vous venez d'écouter, ce qui nous aide énormément et nous donne pas mal de force en termes de visibilité et de référencement avec tous les autres podcasts. Rendez-vous dans 2 semaines et prenez soin de vous. Peace !